RCF.
Frère Philippe Haine, vous êtes dominicain, vous êtes ici à Liège et surtout vous êtes passionné par les pères de l'Église. On peut revenir sur ces questions qui ont parfois divisé ces pères de l'Église, ces réponses contradictoires aussi qui ont pu être apportées, ça peut paraître étonnant. Ce n'est pas une seule et même pensée, celle des pères de l'Église.
Au contraire, donc, ce qui est important, c'est que la base du christianisme, ce n'est pas une pensée, une idée, c'est une personne. Et chaque personne est inaccessible, ou en tout cas incompréhensible, inépuisable. Une personne humaine, déjà, un conjoint. Quand on parle de Dieu, c'est encore plus compliqué. Surtout à partir du moment où on se rend compte que ce Dieu s'est fait homme. Ce qui est absolument absurde et tout à fait inconcevable au point de vue de la raison humaine.
Est-ce qu'on s'en étonne suffisamment que Dieu se soit fait homme ?
Oh, surtout, le plus beau, évidemment, c'est qu'il l'a fait par amour. C'est ça qui est le plus étonnant, qu'on puisse vivre un amour aussi fort que ça. Parce qu'il y a des gens qui font des choses exceptionnelles, traverser la Meuse, comme ça, la nage, c'est très bien. Mais vraiment, par amour, pour chacun d'entre nous, nous ne sommes pas perdus comme des grains de sable sur l'immense plage de l'histoire, ou abandonnés ainsi sur les flots immenses de la destinée. Mais il nous connaît chacun par notre nom. Et pour chacun d'entre nous que le Christ vraiment s'est incarné, qu'il a voulu partager notre vie, qu'il a voulu donner sa propre vie.
Et c'est ça qui a passionné les pères de l'Église aussi. Ils ont cherché à comprendre quelle était la nature du Christ, par exemple.
Alors, c'est justement c'est le plus bouleversant, c'est que cette chose est tellement inadmissible, incompréhensible, que beaucoup de gens ont dit non, c'est pas possible que Jésus soit vraiment le Fils de Dieu, Dieu incarné, c'est pas possible. Dieu reste au ciel et nous, on reste sur terre, on ne bouge plus. Et ainsi de suite. Et ça donnait lieu à ce qu'on appelle des hérésies. Mais c'est à la fois très beau et très touchant, parce qu'il y a des hommes qui ont une telle conception, tellement belle conception de Dieu, qui se disent c'est pas possible. Que Dieu, qui est là, dans le ciel, puisse venir parmi nous vivre ma vie ici à Liège, se perdre ainsi au bord de la Meuse. Mais non, et si ? C'est ça qui est le plus important, c'est de pouvoir être capable d'être étonné par Dieu. Nous sommes étonnés parfois par la méchanceté des gens, nous sommes parfois aussi étonnés par la gentillesse de certaines personnes, mais il faut accepter d'être étonné, bouleversé par la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas comme nous le pensons. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus généreux que nous pensons.
On parlait de la contradiction parfois entre ces pères. Malgré tout, ils sont rassemblés par l'Église. Il y a des conciles qui vont chercher à établir une vision plus juste du Christ, ou en tout cas essayer de mieux comprendre, mieux connaître le Christ. Les conciles de Nicée, les conciles de Chalcédoine vont être ces piliers entre lesquels vont se situer les pères de l'Église. Et les conciles font eux-mêmes référence aux pères de l'Église. C'est un peu des allers-retours finalement.
Tout à fait, mais je ne parlerai pas d'abord de contradiction, je parlerai de sensibilité différente. Si on demande à trois personnes différentes dans la rue comment vivent-elles leur amour conjugal, ce sera chaque fois différent. Parce que c'est des choses tellement intimes et personnelles qui correspondent aussi à des blessures qu'on a au plus profond du cœur, la sensibilité, le contexte dans lequel on vit. Les conciles ont voulu éviter les dérives.
Oui, parce que les dogmes ne sont pas relatifs.
Oui, mais ce monde, ils se sont posés avec un langage qui est assez bon contextuel aussi. Bon, on le voit par exemple, on a ajouté le mot de consubstantiel, de la même nature, mot nature par exemple, dans le concile de Nicée déjà, et les gens n'étaient pas d'accord parce que le mot nature ne se trouve pas dans la Bible. Or, comment parler de Dieu si ce n'est en utilisant que le Dieu lui-même utilise ? Autrement, on va commencer à introduire un langage extérieur à Dieu pour parler de Dieu. C'était assez ambigu. Et donc ce mot-là de consubstantiel de même nature était très mal admis, très difficile à admettre. Donc toute expression par rapport à Dieu est très maladroite. Comment peut-on parler de son voisin sans automatiquement l'enfermer dans des mots, alors que la réalité de Dieu et de la nature dépasse infiniment ? Mais il y a tout de même des moments où on peut se dire, bon, écoutez, si vous estimez que Jésus n'est pas vraiment Dieu, alors ça ne sert à rien. On n'est pas sauvé. Si c'est simplement un gentil monsieur qui a donné sa vie, qui a voulu être serviable et gentil, mais dans ma chair humaine, dans mon existence humaine, au plus profond de moi-même, ça ne change rien. Et c'est ça qui est important quand je parle du souffle de l'Esprit qui est envoyé par Dieu, c'est que ça nous rappelle que Dieu est beaucoup plus fort que cela. Par se faisant homme, Dieu nous a transformés, transfigurés tout entier.
C'est ce que vont vivre les pères de l'Église. Alors, on l'a dit précédemment, ce ne sont pas des saints. Ce ne sont pas non plus des hommes qui vivent dans leur bulle. Certains vont aussi ouvrir un dialogue avec les philosophes de leur temps. Comment s'opère ce dialogue ?
De manière très, très intéressante et très belle. Pour ça qu'on voit qu'il y a donc les bons pères de l'Église et puis les mauvais auteurs de la même époque. Parce qu'il y a des gens comme Tatien. Tatien le Syrien est un homme qui est virulent contre toute la littérature philosophique et les théâtres, etc. Or, c'est le disciple de Justin. Justin de Naplouse, qui est mort vers 167, et qui lui est une façon admirable de s'asseoir à côté des philosophes, de s'asseoir à côté de l'empereur, qui les tue, qui les massacre, en disant « Écoute, réfléchissons, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi Dieu pour toi ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, il y a ce génie de Justin de se mettre à côté de son voisin, d'aller le rencontrer là où il est, dans sa conception de Dieu, du bonheur, de la piété, de l'honnêteté, pour essayer de le faire évoluer, ainsi de suite. Et c'est la véritable bonne méthode des pères de l'Église, comme Origène, le génie des génies. Il faut lire par exemple la lettre de Grégoire le Thaumaturge, c'est son disciple. Son disciple qui a dit « Quelle est la méthode utilisée par Origène ?» Eh bien, Origène nous prenait par la main, il nous conduisait à travers tous les marécages ainsi des philosophies, en nous posant les bonnes questions pour savoir qui est vraiment Dieu, c'est quoi le bonheur, qui on est, qui on veut devenir.
Est-ce qu'on peut lire les écrits des pères de l'Église de façon immédiate, directe, ou est-ce qu'il faut plutôt préférer avoir des commentaires sur ces écrits ? Est-ce que chaque croyant peut lire directement les écrits des pères de l'Église ?
Par définition, il vaut mieux rencontrer l'homme tel qu'il est, là où il est, avec ses propres mots, ses propres paroles. Pour ça, quand je commence au cours de patrologie, je dis « c'est une gymnastique du cœur » et de l'intelligence. Gymnastique du cœur parce que on apprend à découvrir une autre façon d'aimer Dieu. Il n'y a pas que ma façon, l'image de Dieu que j'ai dans mon cœur, qui est bonne, qui est juste, mais elle est limitée, c'est une toute petite image. Et dis-moi qui est Dieu pour toi. Ça, c'est la gymnastique du cœur. Gymnastique de l'intelligence aussi, c'est pouvoir se taire. Se taire, pouvoir lire un auteur de la première à la dernière page, de rentrer dans son raisonnement, dans son vocabulaire, dans sa manière de penser, de réfléchir, et de pouvoir ainsi vivre la vie avec ses yeux et son cœur. Si on arrive à le faire avec les pères de l'Église, on peut le faire dans le couple, on peut le faire dans la paroisse, on peut le faire au boulot, etc. La gymnastique du cœur et de l'esprit.
C'est plus une attitude.
Oui, une attitude, une curiosité, une passion de pouvoir rencontrer l'autre là où il est véritablement.
Et alors, comment nous sont parvenus les écrits des pères de l'Église ? Vous évoquiez ces lettres. Ce sont des copistes qui ont développé ces écrits des pères, ou est-ce qu'on a véritablement trouvé des écrits originaux ? Dans quelle langue est-ce qu'ils étaient ?
Alors, dans la langue, toutes les langues, hein. C'est pas le grec et le latin, mais il y a également arménien, géorgien, etc. Vous savez, le choix de toutes les langues aussi imaginables. On va prendre Ignace d'Antioche, par exemple. Ignace d'Antioche était donc un évêque qui était condamné à mort. Il a écrit plusieurs lettres, tout de suite, déjà de son vivant, avant même qu'il soit mort. On a rassemblé ces lettres et on les a diffusées et recopiées. Polycarpe de Smyrne, son disciple, qui est mort brûlé vif, c'est une horreur. Eh bien, un an plus tard, on demandait, mais racontez-nous comment ça s'est passé, que s'est-il passé, qu'a-t-il dit, et ainsi de suite. Donc, il y a pour un ensemble d'auteurs, très vite, très, très rapidement, un discernement qui se fait, encore une fois, c'est la grâce du Saint-Esprit qui permet de se dire, ça, c'est pas un roman policier passionnant, c'est une chose qui est beaucoup plus importante que celle qui nous parle. Et donc, très vite, il y a eu donc une diffusion qui s'y peut se faire. Deuxième chose importante, c'est la période monastique. Dans les monastères, on ne peut pas reproduire n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. On a reproduit les choses qui étaient utiles. Il y a une sélection qui s'est faite au niveau du Saint-Esprit, ça je le crois sincèrement, au niveau des auteurs, en disant « Oui, ça c'est joli, c'est beau, mais bon, ça ne me nourrit pas. » Et donc on a recopié les bons auteurs.
Et alors comment est-ce que vous qualifieriez l'influence des pères de l'Église aujourd'hui ? Il y a Vatican II qui s'est appuyé sur ces pères de l'Église.
Tout à fait, oui. Et donc, ça, moi, je regrette un petit peu actuellement que même dans l'enseignement de catéchèse ou bien de la formation de la foi, on se concentre de plus en plus un petit peu sur l'écriture et certains documents et pas assez, je dirais, sur le souffle créatif.
La tradition, un peu.
C'est ça qui fait la richesse. Nous sommes portés, nous sommes comme un grand fleuve, portés ainsi par les gens qui ont prié d'abord. Qui ont prié, qui ont médité la parole de Dieu, qui l'ont vécu concrètement sur le terrain et qui, après, ont écrit. Donc c'est le fruit de toute une maturation spirituelle qui est là, et nous sommes les héritiers de cela. Il faut se laisser emporter par ce souffle spirituel.
Et quelle serait l'influence aujourd'hui de ces écrits? Où est-ce que vous la percevez, vous, dans les débats actuels, dans les discussions, dans les synodes, dans les rencontres entre les évêques, peut-être même dans les encycliques? Est-ce que vous percevez parfois cette influence des pères de l'Église?
C'est bon. En tout cas, moi, je commenterais ceci, c'est que la lecture et l'étude des pères de l'Église nous permettrait d'être remplis de foi et de confiance. On se plaint que les églises sont vides, on se plaint que même l'Église est forme comme un écran par rapport à cela. Mais non, mais quand on lit les pères de l'Église, on se rend compte que l'Église, le peuple de Dieu, c'est un vitrail. C'est un vitrail avec des milliers de petites pierres de couleurs différentes. Les unes sont noires comme le péché, l'autre sont rouges comme la passion ou comme le sang. Mais elles font toutes partie de cet ensemble, de ce tableau qui forme le peuple de Dieu. Il faut croire en l'incarnation.
Alors, quel serait, vous, votre père préféré? Vous avez un chouchou dans vos pères, ce que vous étudiez?
Je vous lance ici un scoop publicitaire. Donc, je suis en train de travailler sur Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, donc, qui a écrit vers 160-170, et qui, alors, c'est très joli, il le découvre ainsi. Il présente Adam comme étant un petit gamin. Un petit gamin qui a pris le pot de confiture de sa grand-mère, qui a chipoté dedans. Puis brutalement, Dieu lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait là ?»« Oh, je me suis caché, j'ai eu peur, etc. » Et donc, c'est très joli de se dire que nous sommes en maturation. Nous évoluons vers une plus grande maturité. Nous apprenons par nos erreurs, nous apprenons notre expérience, nous permet d'être peut-être un peu plus sages, en tout cas d'approfondir le sens de notre propre vie. Vous savez, j'ai des amours. J'ai écrit 17 livres à peu près. Donc, il y en a sur une quinzaine de pères différents. Moi, je change de père de l'Église, mais jamais de religion.
Merci, frère Philippe N. Vous êtes religieux dominicain. Vous avez rejoint votre communauté ici à Liège et vous êtes spécialisé en patristique. Merci beaucoup.